Business Today.
Parce qu'on va parler du succès d'Aven. Aven vient d'atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Il s'est vendu 130 millions d'unités de produits Aven en 2023. Bonjour Éric Ducourneau, vous êtes le directeur général des laboratoires Pierre Fabre.
Bonjour.
C'est la maison mère d'Aven. Vous avez plein d'autres marques, Clorane, René Fiotterer et bien d'autres. Mais quand on regarde le poids d'Aven aujourd'hui dans votre chiffre d'affaires, c'est important. Cette marque, qu'est-ce qu'il fait qu'elle marche si bien ?
Alors c'est un tiers du chiffre d'affaires. Ouais. Ce qui fait qu'elle marche si bien, c'est qu'elle est utile, efficace pour les patients. C'est une marque de soins. Donc en fait, Aven, ce sont surtout des principes actifs qui sont contenus en fait dans l'eau d'Aven et qui permettent de prendre en charge pour les dermatologues un certain nombre de pathologies dermatologiques telles que l'acné, le psoriasis, l'eczéma. Et c'est aussi une station thermale d'ailleurs à Aven, dans le village de l'Hérault, où on traite à peu près 3000 patients par an. Et c'est ça qui fait la notoriété et le succès de cette marque qui effectivement représente un tiers de notre chiffre d'affaires.
Alors sans rien enlever à vos mérites, c'est vrai que la dermocosmétique, elle vend en poupe. On le voit, d'abord, c'est souvent distribué en pharmacie. Et c'est vrai que beaucoup de clients se tournent vers ces produits issus, comme vous l'avez dit, de stations thermales. Et ça marche partout, dans tous les groupes, en fait.
Alors, effectivement, depuis à peu près 3 ans, la dermocosmétique connaît un succès mondial assez important. Malgré le fait que ce soit quelquefois dans des circuits de distribution très différents, puisque bon, on connaît en Europe traditionnellement la pharmacie, c'est différent aux États-Unis avec les drugstores, c'est encore autre chose en Asie. Mais ces marques remportent un certain succès et d'ailleurs on peut être aussi fier qu'elles soient pour l'essentiel françaises.
Ouais, et d'ailleurs c'est important ce que disait Laure, la marque milliardaire dans les cosmétiques, c'est vraiment un marqueur. Souvent les grands groupes disent bon, moi j'ai 2-3 marques milliardaires. Vous savez, vous en avez une, c'est quand même une étape importante.
Alors on en a une, et dans la dermocosmétique où il y en a moins que dans ce qu'on appelle la cosmétique de masse, dans la dermocosmétique il n'y en a que 2. Voilà.
Et en face, vous avez quand même L'Oréal, ce qui n'est pas rien. En termes de marketing, comment vous faites pour réussir à vous imposer ? J'imagine que dans les pharmacies et les drugstores, ça doit être quand même la guerre.
Alors, les secrets, les recettes, etc. sont souvent les mêmes. Mais je pense que ce qui est assez important, c'est de maintenir toujours de l'innovation. Puisqu'en fait, ce marché croît essentiellement par l'innovation et puis par le service aux patients, ce que je disais tout à l'heure. Et cette innovation, en fait, on la maintient par des investissements en recherche et développement importants et quelquefois aussi parce que l'on peut faire quand on est chez Pierre Fabre, parce que c'est un laboratoire pharmaceutique, en termes de soins de support par rapport à des traitements médicamenteux.
Alors, ce qui est intéressant aussi de votre activité, c'est vrai qu'il y a un petit peu une surreprésentation en ce moment de cette activité dermocosmétique, parce que vous êtes en montée en puissance, notamment sur l'oncologie, où vous avez réalisé des acquisitions dans la période récente. Quel est votre plan de route pour les traitements contre le cancer ?
Alors, aujourd'hui, l'oncologie, c'est à peu près 15% du chiffre d'affaires de Pierre Fabre. L'objectif, c'est d'être à 30% dans 3 ans. Et ce sera le cas parce qu'on a un certain nombre de produits en lancement. On a aujourd'hui 10 études cliniques qui sont en cours et donc ces produits vont arriver sur le marché entre 2025 et 2029. Donc en gros, si vous voulez, comment on s'y prend ? Eh bien, par un investissement en recherche important, 200 millions d'euros par an, et aussi par des acquisitions. Donc l'année dernière, on a fait pas mal d'acquisitions. On a fait 4 dans le domaine de l'oncologie, ce qui est important. 200 millions d'euros investis dans ces acquisitions. Donc avec des partenariats que nous créons avec des sociétés de biotechnologie, comme on dit, souvent nord-américaines, et qui
vous rachetez
dans lesquelles nous développons. Alors, soit on les rachète, soit on fait un partenariat. Pierre Fabre est une entreprise qui a développé depuis très longtemps cette capacité à créer des partenariats assez équilibrés avec des entreprises de taille très différente. On est en partenariat avec le leader mondial de la pharmacie, Pfizer, mais on est aussi avec des sociétés plus petites comme Scorpion Therapeutics, par exemple.
Sur la question du cancer, qu'est-ce qu'on peut attendre là comme innovation dans les prochains mois ? Sortant de vos laboratoires.
Ce qui est aujourd'hui de plus en plus connu, c'est ce qu'on appelle des thérapies ciblées. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de notre carte génétique, on peut arriver, si vous voulez, à trouver des traitements pour le cancer qui sont de plus en plus adaptés à chacun d'entre nous, et chaque individu est différent. Et donc, être beaucoup plus efficace, le médecin est beaucoup plus efficace dans ce cas-là, grâce à ces thérapies. Et ce que nous allons faire, c'est que l'année prochaine, nous allons lancer une thérapie cellulaire aux États-Unis dans un cancer très rare, mais très invasif. Et cette thérapie cellulaire, on l'a déjà lancée en Europe en 2023, et donc nous allons nous réinstaller aux États-Unis, ce qui sera une étape importante pour Pierre Fabre à travers ce produit.
Alors, je rappelle aussi la singularité de votre entreprise, qui est détenue par une fondation à 80%. Est-ce que c'est un atout ou un handicap ? Tout à l'heure, on parlait des IPO en Europe, et on annonçait que, sans doute, le groupe de dermatologie Galderma allait lever 2,3 milliards d'euros en bourse, sans doute à Zurich. Est-ce que ça vous donne pas envie à ce que vous dites, moi, si j'étais pas une fondation, je pourrais aller chercher des milliards pour investir dans les traitements contre le cancer, par exemple.
Alors, c'est sûr que le fait d'avoir comme actionnaire majoritaire une fondation reconnue d'utilité publique fait que cet actionnaire ne finance pas l'entreprise. L'entreprise doit compter pour ses financements, les acquisitions dont je parlais, ou les investissements en recherche et développement, sur ses propres ressources. Au moins, nous arrivons à le faire. Pour d'autres étapes, il ne serait pas exclu, si vous voulez, de faire appel à d'autres financements.
Ah oui.
Les statuts de l'entreprise, en fait, ne l'interdisent pas.
D'accord.
Et puis, il y a aussi les financements bancaires, évidemment, qu'on peut souhaiter.
Et donc, une IPO, pourquoi pas ?
Peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, il y a d'autres possibilités.
Ça pourrait peut-être être une marque qui est cotée.
Oui, ça pourrait effectivement être le cas. Enfin, aujourd'hui, ce qui est important, si vous voulez, c'est que cette détention capitalistique, qui est unique en France, a permis de stabiliser l'entreprise sur son territoire, lui permet de se développer avec ses singularités, et notamment le fait d'être en région et très ancré dans sa région d'origine, l'Occitanie.
Justement, sur les questions de financement, on entend beaucoup de biotech, de medtech se plaindre sur ce plateau qu'aujourd'hui, que la concurrence de l'intelligence artificielle ou de la décarbonation, parfois la concurrence est trop forte sur des financements qui sont de plus en plus faibles. Est-ce que vous avez cette même difficulté ?
Non, parce que je pense qu'on est dans un cycle industriel en ce qui nous concerne. L'activité de Pierre Fabre en France, la moitié des emplois de Pierre Fabre en France, ce sont des emplois dans les usines et dans les sites logistiques. Donc on est sur une activité qui est très industrielle. Et en fait, cet ancrage qui est ancien, en fait, nous permet de ne pas avoir ces phases, si vous voulez, de financement, d'aller chercher pour trouver des partenaires pour fabriquer nos produits ou pour commercialiser nos produits. On est une entreprise complètement intégrée. Il est vrai qu'il y a un problème de financement, en fait, de la biotech en France, mais c'est aussi la capacité à prendre des risques. Et là, si on revient à la détention capitalistique, être détenue par une fondation qui, si vous voulez, bien, nous donne une stabilité, en fait, sur à la fois les financements, mais aussi ce qu'on a à délivrer comme dividende, c'est une grande chance dans des métiers qui sont très capitalistiquement intégratif, on dit, donc parce que ça nécessite beaucoup de moyens et avec une grosse prise de risque.
Alors justement, puisque vous parliez d'ancrage régional, on va parler de ce projet d'A69, d'autoroute entre Castres et Toulouse. Les écologistes vous accusent de la financer, de la soutenir. Est-ce que vous en avez absolument besoin, notamment pour rendre attractif votre usine, trouver des talents, les faire venir de toute la région ?
Alors, il faut replacer tout ça dans son contexte, si vous voulez. C'est l'enclavement d'une région. Le bassin de Castres-Mazamet, c'est le seul bassin de vie de 120 000 habitants en France qui ne soit pas relié par une autoroute ou par une double voie ferrée à sa capitale régionale. Ouais. Donc cet enclavement, évidemment, est une souffrance pour l'entreprise, mais pour toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement Pierre Fabre qui est concerné par ce sujet. Oui, nous en avons besoin, comme nous en aurions eu besoin, j'allais dire, de toutes les autres possibilités de désenclavement. Mais in fine, c'est celle-ci qui a été choisie par l'État. Et donc, quand on nous pose la question de savoir si nous sommes pour, effectivement, comme toute entreprise, nous sommes pour le désenclavement de la région dans laquelle nous employons 2000 personnes.
Merci beaucoup, Éric Ducournau, directeur général des laboratoires Pierre Fabre.